depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministre saoudien de la Défense dit que c'est le temps pour la Syrie de se stabiliser et de se reconstruire. L'épave de l'avion de Jeju Air commence à être retirée. Les enquêteurs sud-coréens mettent fin aux efforts visant à arrêter le président Yoon Suk-yeol. L'armée israélienne prend d'assaut un hôpital indonésien à Gaza et force l'évacuation. Le MPR apprécie que MK supprime le seuil présidentiel pour la qualité de la démocratie. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministre saoudien de la Défense, Khalid Ben Salman, a déclaré qu'il était temps pour la Syrie de se stabiliser et de se reconstruire. Il a également souligné la nécessité d'unité et de progrès dans ce pays déchiré par la guerre où un nouveau gouvernement a pris le pouvoir après la chute du régime d'Assad. Khalid Ben Salman a fait cette déclaration après sa rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Shaibani, le ministre de la Défense Murhaf Abu Kasra et le chef de renseignement Anas Khatab. Rapporté par Antara vendredi, la réunion a eu lieu lors de la visite de la délégation syrienne dans la capitale saoudienne Riyad, sa première visite officielle depuis le renversement du régime d'Assad. 5 jours se sont écoulés après le crash mortel de Jeju Air, les débris de l'avion ont commencé à être enlevés. Des équipements lourds ont été déployés pour évacuer l'épave de l'avion. Rapporté par l'AFP vendredi, l'évacuation de l'épave du Boeing 737-800 a été réalisée à l'aide d'une grue. Le chef des enquêtes de la police provinciale du Jeolla Sud, Nawon Hu, a déclaré aux journalistes qu'il espérait qu'on trouverait beaucoup de restes de pièces de l'avion. On sait que l'accident du 28 décembre a tué environ 179 personnes. Les corps des victimes ont été remis à leurs familles respectives. Les enquêteurs sud-coréens ont annulé les efforts visant à arrêter le président Yoon Suk-yeol. Cette annulation a été transmise directement par le Corruption Investigation Office ou abrégé en CIO. Le CIO, rapporté par l'AFP vendredi, a déclaré que les inquiétudes concernant la sécurité du personnel sur place ont conduit à la décision d'arrêter l'exécution. Auparavant, les enquêteurs auraient réussi à entrer dans la résidence du président Yoon Suk-yeol après avoir franchi des barricades de sécurité très strictes, mais ils ont été bloqués par l'armée. Les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut l'hôpital indonésien à Gaza du Nord, menaçant son personnel médical et ses patients et ordonnant une évacuation immédiate vendredi. Le centre d'information palestinien a rapporté que l'hôpital est désormais pratiquement encerclé par les troupes israéliennes qui continuent de tirer à balles réelles autour de lui. La plupart des personnes présentes dans l'hôpital assiégé étaient des femmes et des enfants, ainsi qu'un certain nombre de blessés. Le directeur de l'hôpital indonésien a déclaré que l'établissement avait épuisé toutes les fournitures médicales, appelant à une action internationale urgente pour sauver la vie des civils blessés. L'attaque contre l'établissement de santé a eu lieu une semaine après qu'Israël a envahi et évacué des forces l'hôpital Kamal Adwan, envoyant ceux qui ont besoin de soins médicaux urgents dans les hôpitaux indonésiens. Il n'y a désormais aucun hôpital en activité à Gaza du Nord, mettant en danger la vie des 300 000 Palestiniens de la région. Le vice-président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, Hidayat Nur Wahid, apprécie et soutient la décision de la Cour constitutionnelle ou Mahkamah Konstitusi ou abrégé en indonésien MK, qui a aboli le seuil présidentiel, même si elle était tardive, afin d'améliorer la qualité de la démocratie. Hidayat Nur Wahid, dans sa déclaration à Jakarta vendredi, a déclaré qu'en plus d'être conforme aux aspirations et aux espoirs de la communauté au sens large, cela est également conforme à la Constitution qui ouvre l'espoir d'une élection présidentielle plus démocratique en étant capable de briguer des candidats présidentiels et vice-présidentiels de plus grande qualité. Il a ajouté que la Cour constitutionnelle, avec sa décision finale, qui a aboli le seuil présidentiel, a soutenu que la Constitution, la raison, l'éthique et la moralité pouvaient respecter toutes les règles constitutionnelles. Cela peut améliorer la qualité de la démocratie et les résultats des élections, pas seulement de l'élection présidentielle. Pour cette raison, il espère également que la Cour constitutionnelle maintiendra ou appliquera systématiquement les dispositions constitutionnelles en révisant ou rectifiant plusieurs autres décisions de la Cour constitutionnelle. C'est le journal d'aujourd'hui. Chers auditeurs, voici les infos de l'Indonésie. La première nouvelle vient de la ville de Mataram, Nusa Tenggara de l'Ouest. Le musée d'État de Nusa Tenggara de l'Ouest, ou NTB en indonésien, a envoyé 8 collections d'objets historiques pour participer à l'exposition internationale Islamic Arts Biennale qui se tiendra dans la zone du terminal H de l'aéroport international King Abdul Aziz de Jeddah en Arabie Saoudite. Le directeur du musée NTB Ahmad Nuralam à Mataram a déclaré jeudi que l'exposition internationale organisée par la Fondation Biennale de Diriyah et parrainée par le Royaume d'Arabie Saoudite se tiendrait pendant 4 mois, du 25 janvier au 25 mai 2025. L'exposition, dont le thème est « The Art of Number », est l'une des plus grandes expositions au monde qui présente la richesse et la diversité de la culture islamique à travers des institutions de divers pays. L'Indonésie a été choisie comme représentant de l'Asie du Sud-Est parmi 20 pays. La participation de l'Indonésie à l'exposition de l'Islamic Art Biennale est représentée par 3 musées, à savoir le musée NTB de Mataram, le musée Sonobudoyo de Yogyakarta et la Bibliothèque nationale de Jakarta. Le musée NTB expose 8 artefacts à cette exposition. Ce sont le keris, le cipok cila ou un foulard typique des femmes de Sumbawa, le livre Tajul Muluk, elle est couverte en bétail hérité des tribus Sasak, Samawa et Mbojo. La nouvelle suivante vient de la ville de Bengkulu, la province de Bengkulu. Le gouvernement de la ville de Bengkulu, province de Bengkulu, a inauguré l'attraction touristique Kota Tuo, située au village de Pasar Bengkulu, après avoir été revitalisée par le Centre d'établissement de développement régional, ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire. Le maire de Bengkulu, Arif Gunadi à Bengkulu, espère mardi que Kota Tuo pourra être visité par des touristes locaux et extérieurs de la ville de Bengkulu. Noprisman, chef du département des travaux publics et de l'aménagement du territoire de la ville de Bengkulu, a expliqué que l'inauguration avait été réalisée pour devenir une destination touristique pour la communauté pendant la période des fêtes. Le Kota Tua Bengkulu est une zone historique car de nombreux vestiges historiques et archéologiques ont été découverts sous la forme de sites de fortes, de bunkers, de mosquées et de vieilles maisons, de complexes funéraires et de lieux considérés comme les chantres du royaume de Sungai Serut. La dernière nouvelle vient de la ville de Padang, Sumatra de l'Ouest. Les Chinois de souche membres de la communauté Himpunan Bersatu Teguh ou HBT de la ville de Padang, Sumatra de l'Ouest, continuent de maintenir et de préserver leurs traditions ancestrales comme la procession Sipasan. Le vice-président Ang de HBT Pekanbaru, Hari Suwandi à Padang, a déclaré mardi qu'en plus de commémorer le 148e jour du HBT et de célébrer le nouvel an, la tradition de Sipasan visait également à préserver les traditions ancestrales pour la jeune génération. Hari a expliqué que la tradition Sipasan existait depuis des centaines d'années et continuait d'être maintenue par la communauté ethnique chinoise, en particulier à Padang. À chaque fois qu'il a lieu, des Chinois de différentes villes viennent délibérément l'animer. L'une des significations contenues dans cette tradition est l'attitude de tolérance et de coopération entre les communautés très diverses de Sumatra de l'Ouest. Parce que cette tradition n'est pas seulement suivie par les Chinois, mais aussi par l'ethnie Minangkabau. Dans cette tradition, les administrateurs du HBT font défiler les enfants âgés de 3 à 10 ans à l'aide de montures en bois et décorées de bibelots ethniques typiquement chinois. Au cours de la procession, la direction de HBT a également présenté deux danses de lion blanc et rouge accompagnées de musique typiquement chinoise. C'était les infos de l'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 4 janvier. Le 4 janvier 1946, le président indonésien Sukarno et son entourage sont arrivés à Yogyakarta. L'entourage de Sukarno est arrivé en train pour déplacer la capitale de la République d'Indonésie à Yogyakarta depuis Jakarta, qui n'était plus sûre et avait été occupée par les Néerlandais. Le 3 janvier 1946, le président Sukarno a tenu une réunion du cabinet pour discuter des projets de déplacement de la capitale à Yogyakarta. Le président Sukarno a décidé de déplacer la capitale de l'Indonésie à Yogyakarta avec la permission de Sri Sultan Hamengkubuwono IX et Sri Pakualam VIII. Donc le 4 janvier 1946, Bung Karno et son entourage tôt le matin sont allés à Yogyakarta en train. Seules les lignes de train sont encore relativement sûres. L'itinéraire emprunté est Pegangsaanes, Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta. Passons à l'événement de 1948, l'indépendance du Myanmar. La guerre en le Birman de 1824 à 1885 a conduit la soumission du Myanmar sous la domination coloniale britannique. Le Myanmar est devenu une province de l'Inde par les Britanniques en 1986. Diverses formes de résistance contre les Britanniques avaient été menées. L'un d'eux a émergé un mouvement nationaliste appelé Conseil général de l'association birmane qui menait une politique non coopérative avec l'Angleterre. Et finalement, le Myanmar est devenu officiellement indépendant de la Grande-Bretagne le 4 janvier 1948. Et jusqu'à présent, cette date est célébrée comme le jour de l'indépendance du Myanmar. Le 4 janvier, la Journée mondiale du Braille. La Journée mondiale du Braille est célébrée chaque 4 janvier pour commémorer la prise de conscience de l'importance du Braille comme moyen de communication dans la pleine réalisation des droits humains des personnes aveugles et malvoyantes. L'histoire de la commémoration de la Journée mondiale du Braille remonte à 2006. À cette époque, la Convention relative aux droits des personnes handicapées proposait les droits et le bien-être des personnes handicapées. La Convention considère le braille essentiel pour l'éducation, la liberté d'expression et d'opinion, l'accès à l'information et l'inclusion sociale des aveugles. L'invention de Louis Braille a été d'une grande utilité pour les aveugles du monde entier. C'est pourquoi, en novembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 4 janvier comme Journée mondiale du Braille. La raison pour laquelle le 4 janvier a été choisi comme Journée mondiale du Braille est qu'il coïncide avec la date de naissance de Louis Braille. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi. Melayang pikirku tak pasti. Dialog dini resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri aku tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap
chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « Le ministre des Finances est optimiste quant à la solidité de la PBN indonésienne ». Le ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani Indrawati, a exprimé l'optimisme du gouvernement pour l'économie indonésienne lors de l'inauguration de l'ouverture des négociations de la bourse indonésienne, ou en indonésien abrégé en BEI, 2025, jeudi, à Jakarta. Dans son discours, Sri Mulyani a souligné les réalisations du budget des recettes et des dépenses de l'État 2024, qui a réussi à soutenir la stabilité économique et la protection sociale face aux défis mondiaux. Elle a expliqué que les recettes de l'État au deuxième semestre 2024 commençaient à se redresser après d'énormes pressions au début de l'année. Elle a ajouté que les dépenses publiques ont permis d'atténuer l'impact économique, notamment grâce au soutien aux élections, au développement de l'IKN et à la gestion de El Nino. Sri Mulyani a souligné l'importance de la synergie entre les institutions, notamment la Banque d'Indonésie, l'Autorité des services financiers, ou en indonésien Otoritas Jasa Keuangan, ou abrégé en OJK, et l'Agence de garantie de l'épargne, ou en indonésien Lembaga Penjamin Simpanan, ou abrégé en LPS, pour maintenir la stabilité économique. À cette occasion, elle a invité toutes les parties à maintenir un esprit positif en ce début d'année. Selon elle, avec une synergie et une détermination commune, le peuple indonésien sera en mesure de gérer les richesses du pays pour le bien-être de tous. Sri Mulyani Indrawati a déclaré que l'éducation et l'alphabétisation sur les marchés financiers pour la communauté dans son ensemble doivent continuer à être améliorées étant donné qu'il y a encore relativement peu de personnes qui participent aux marchés boursiers ou à la bourse. Elle a expliqué qu'à l'heure actuelle, les connaissances sur les marchés des capitaux devraient être dispensées non seulement au niveau universitaire, mais aussi au niveau de l'école primaire, afin que les jeunes se familiarisent davantage avec la bourse. D'un autre côté, Sri Mulyani a également fait pression pour des instruments d'investissement beaucoup plus abordables pour les petites communautés afin qu'elles puissent participer. À son avis, lorsque les gens ont commencé à diversifier leur épargne et à approfondir le marché des capitaux, Sri Mulyani a également rappelé aux acteurs du marché et aux autres parties prenantes de surveiller et de s'assurer que les actions négociées sont des actions saines. Cela a également été soutenu par le directeur du développement de la bourse indonésienne, SARL, UBEI, Jeffrey Hendrik. Il a déclaré qu'il était important de fournir l'alphabétisation et l'éducation liées au marché des capitaux aux jeunes avant de passer d'une société d'épargne à une société d'investissement. Selon Jeffrey Hendrik, l'alphabétisation et l'éducation peuvent commencer dès l'école primaire et se poursuivre jusqu'au niveau secondaire. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Selalu menunggu saat kita akan berjumpa.
hati-hati, jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati, bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati, dekat di hati, dekat di hati.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, les noms des îles de Mille Îles sont parfois bizarres à nos oreilles, comme l'île Payung, qui est située aux Mille Îles. Cette petite île, située entre l'île Tidung et l'île Pari, est une île avec une population d'environ 40 familles et administrativement incluse au sous-district de l'île Tidung, sous-district de l'île Seribu Selatan. Chers auditeurs, pour aller à l'île de Payung, les touristes peuvent prendre un ferry avec un temps de trajet d'environ 2,5 à 4 heures selon la météo et les vagues. Pendant ce temps, si vous prenez un hors-bord, le temps de trajet est bien sûr plus court. Après être descendu du navire, les touristes peuvent aller à la résidence de la communauté locale, qui est également un espace public sur l'île de Payung. Chers auditeurs, l'île Payung est également l'un des sites de plongée peu profonde les plus appréciés. Les activités de plongée en apnée et de bateau banane sur l'île de Payung peuvent également atteindre l'île de Tidung. Il n'est donc pas surprenant que l'île de Payung regorge de touristes. L'une des beautés célèbres de l'île Payung sont ses plages et son panorama sous-marin qui sont toujours aussi beaux et bien entretenus. Même si la mer est peu profonde, les vagues sont calmes et l'eau claire, ce qui fait de ce lieu un endroit idéal pour ceux qui aiment la plongée en apnée. En outre, il y a aussi un grand camping sur la plage, idéal pour passer et profiter d'une soirée romantique. La belle atmosphère insulaire et les résidents locaux sans fatigue rendent les vacances sur cette île spéciale. Bon, chers auditeurs, si vous êtes en visite ou en vacances en Indonésie, en particulier à Jakarta, essayez de planifier une visite sur l'île de Payung dans les Mille Îles. C'est tout le magazine culturel d'aujourd'hui. Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous en Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers auditeurs, bienvenue à nouveau dans l'édition inspirante du week-end de l'événement L'Indonésie en couleur. Cette fois-ci, nous vous informons une fière nouvelle. Les étudiants du lycée Al-Izhar Pondok Labu Jakarta et du lycée Lab School Cibubur ont réussi à rendre la nation fière en remportant le prix platine et or lors de l'événement Asian Student Exchange Program, ou abrégé en ASAP, 2024 à Kaohsiung, Taïwan. Avec le grand thème de Net Zero Green Living, les élèves des deux écoles ont transmis un message important sur un mode de vie respectueux de l'environnement à travers une présentation théâtrale intitulée Net Zero Green Lifestyle. Les réalisations des étudiants indonésiens ne peuvent être séparées de la collaboration conjointe entre les étudiants indonésiens et les étudiants de Taïwan. Le programme Asian Student Exchange Programme 2024 n'est pas seulement une arène de compétition, mais aussi une opportunité de renforcer les relations interculturelles. Lors de leur séjour à Taïwan, les lycéens de la Lab School ont collaboré avec des étudiants de Xiaogang, Taïwan, pour réaliser des enclumes et des présentations en anglais. Pendant ce temps, le lycée Al-Izhar collabore avec des étudiants du lycée Chungsan à Taïwan. Ils ont conclu un projet qui soulevait la question mondiale de l'impact de la fast fashion sur les émissions de carbone en encourageant l'adoption d'une mode éco-responsable. Ce travail acharné se concrétise par des représentations théâtrales créatives et significatives, illustrant des véritables défis et des solutions innovantes pour atteindre la durabilité environnementale. Le concours ASEP 2024 s'est déroulé du 23 au 27 décembre 2024 à Kaohsiung, à Taïwan, et a réuni 50 équipes sur 500 participants venus de divers pays asiatiques. En plus d'être un forum de compétition, ce programme vise également à encourager les échanges culturels et à renforcer la coopération entre les jeunes générations. Chers auditeurs, cette réussite montre une fois de plus que la jeunesse indonésienne est capable de briller sur la scène mondiale, non seulement grâce à la compétition, mais aussi en exprimant un changement positif pour l'avenir. L'esprit de collaboration interculturelle et le dévouement à l'environnement dont font preuve les étudiants sont une source d'inspiration pour nous tous. Rendez-vous dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur.
Jalan pulang mengingatkan ku kenyataan.
chansons que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Keroncong Perpisahan, chantée par le groupe Keroncong The Guileless Cover. Cette chanson, créée et popularisée par le groupe de musique Day Afternoon, est sortie en 2011. Cette chanson décrit un couple qui décide de ne plus sortir ensemble, mais souhaite se marier. Ils espèrent avoir une petite famille heureuse. Le message de parole concerne l'engagement et le bonheur de vivre ensemble, sans passer par un long processus de datation au préalable. Bon, chers auditeurs, voici The Guileless Cover avec Keroncong Perpisahan. Bonne écoute.
Bukan keroncong pertemuan, tapi keroncong pacaran lagi, langsung menikah saja. Tiada tangis dan derita, tapi tertawa bahagia, karena pada akhirnya kita hidup bersama. Tinggal di rumah jarang lagi langsung menikah saja.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.